Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors je ne le présente plus, je le dis tous les jours, je ne vous présente plus, mais je vous présente quand même.
Allez-y, allez-y,
c'est
ça
le docteur
fait du bien.
Jimmy Mohamed, le grand docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez vu quelle entrée?
Quelle entrée, allez. C'est pas mal. Tous les jours je veux ça.
Ouais, bon,
avec des cotillons, je veux.
Oui, un jour sur deux.
Un jingle,
sur trois,
je veux de la musique, je veux des paillettes et des moulures au plafond.
Je vous ai mis de la musique, c'est super. Allez, merci. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet qui attise la curiosité de tous, les expériences de mort imminente. Alors attention, on ne va pas vous proposer une émission sur le surnaturel aujourd'hui, mais bien un témoignage scientifique et pragmatique, celui du docteur Sylvie Cafardi. Elle est gériatre et référente en soins palliatifs et elle a enquêté depuis 20 ans sur ce sujet. Elle nous expliquera comment questionner notre façon de mourir et surtout comment ces expériences de mort imminente peuvent nous aider à mieux apprendre à vivre. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Focus aujourd'hui sur les verrues plantaires, un bobo très fréquent, très enquiquinant même, mais qui peut se traiter. Le docteur Jimmy Mohamed nous expliquera tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'infidélité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Laura.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Donc voilà, j'ai un enfant d'un an qui ne fait toujours pas ses nuits. Il nous réveille au moins 10 fois pour le biberon ou la tétine. On ne sait vraiment plus comment faire. Est-ce que vous avez des astuces pour que ça cesse et qu'on puisse retrouver des nuits normales? Je suis preneuse. Bon après-midi, au revoir.
Je rigole parce que j'ai vu vos yeux, Jimmy, de... Alors pas de médecin, là, de papa,
ah oui,
un petit
qui
peu.
Qui subit aussi, hein, malheureusement.
C'est ça, voilà,
aussi,
bébé d'un an, exactement. Qui ne dort pas. Elle a parlé de 10 réveils nocturnes. Ouais. C'est un faible mot, peut-être. Vous en avez connu pire, non?
Non, 10, non, c'est pas mal. Alors, 10, quand ils sont malades, on peut l'accepter. Mais il faut se dire, c'est que normalement, un enfant de 1 an est censé faire ses nuits.
C'est ce que j'allais vous dire. Alors, en tant que médecin et pas que papa, de papa, Jimmy, à 1 an, c'est pas normal. Hein.
C'est pas normal. D'ailleurs, vous savez, les enfants, ils doivent, au bout de 1 ou 2 mois, déjà, pouvoir faire leur nuit seuls.
Ça, il n'y en a aucun.
Il
enfin,
n'y en a aucun. Mais si, vous avez toujours cet ami qui vous dit, mais je comprends pas, moi, mon bébé.
À la sortie de la maternité.
Dès le 4e jour, il dormait. Eh bien, finalement, si, c'est peut-être de notre faute si jamais les enfants ne dorment pas.
Moi, je les ai plus, ces amis, je les ai plus d'ailleurs. Je les ai virés de
on veut plus en entendre parler. Mais non, effectivement, à 1 an, ce n'est pas normal. Un enfant est capable de dormir et de faire une nuit complète.
Alors, sans culpabiliser personne, en général, un enfant, on va dire, passé 6 mois, vous disiez 2 mois, mais je crois que 6 mois, en tout cas, certains, ceux qui sont allaités, peuvent avoir besoin encore la nuit parfois de manger, mais après 6 mois, si ça dort pas, c'est souvent de la faute, entre guillemets, des parents qui ont pris des mauvaises habitudes.
Hein. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, quand il y a l'allaitement, c'est plus difficile, mais après 6 mois, on n'a plus besoin de lait la nuit, donc on n'a plus besoin en principe de l'allaiter, sinon c'est une tétine. Alors deux paramètres importants que nous on néglige, c'est qu'un enfant, pour qu'il passe une bonne nuit, il faut qu'il puisse s'endormir seul et se rendormir seul. C'est-à-dire qu'au moment du coucher, il faut qu'il soit éveillé et pas qu'on le berce dans les bras, qu'on lui file le biberon. Et quand il se réveille la nuit, c'est des choses normales. Un enfant de 1 an, même de 6 mois à 1 an, a des micro-réveils et donc il doit pouvoir se rendormir seul. Et donc il faut le laisser pendant
donc
quelques minutes
apprendre à le faire.
Pleurer. Donc c'est un apprentissage car on leur a donné le mauvais exemple.
Alors justement, il se réveille finalement comme nous d'ailleurs, ces micro-réveils. Nous on se rendort, on ne demande pas la tétine ou quoi que ce soit. Jimmy, juste concrètement, 2-3 conseils pour cette maman désespérée quand même. Qu'est-ce qu'elle peut faire là pour faire
rituel,
faire ses nuits,
le soir, plutôt court. Retenez, si un enfant a 2 ans, normalement c'est 2-3 minutes.
Oui, c'est court.
S'il a 4 ans, c'est 4 minutes. Donc 1 an, c'est assez rapide. Sinon, on va augmenter l'angoisse de séparation.
On reste pas pour 10 000 câlins, c'est 1 minute de rituel. Allez.
On fait un rituel simple, on se brosse les dents, on peut lire une histoire en dehors du lit, puisque le lit doit être sacralisé pour le sommeil. Le lit non plus n'est pas un endroit de punition. On évite les écrans le soir, de toute façon, 1 an, il ne faut pas. Et puis, on évite que l'enfant s'endorme avec le biberon. Et avec ces petits rituels, normalement, l'enfant doit trouver et adapter ses nuits tranquillement.
Merci Jimmy. On refera une émission sur les problèmes de sommeil des bébés, parce que ça passionne nos auditeurs, on le sait. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Estelle. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle. En fait, j'ai entendu qu'on pouvait être 6 à table et pas plus. Je voulais savoir si on est 7, en fait, ça change quoi? Je ne comprends pas. Il sort d'où exactement ce chiffre de 6 à table? Merci.
Bon, ben, la question est claire. Jimmy, sort d'où ce chiffre de 6 à table? Est-ce qu'à 7, c'est pire? Est-ce qu'à 5, ça, c'est mieux?
Alors, 6, c'est la règle qui est donnée. Moi, je vous propose 0. Il faut éviter de se réunir, là, désormais, dans,
juste
pour de vrai.
Dans les membres du foyer, quand même.
Membres du foyer,
entre nous,
si vous avez 5 enfants, votre mari et votre femme, vous êtes 7, oui, évidemment. Ouais. Mais pour vous regrouper entre amis, entre familles, c'est 0. Il faut arrêter l'épidémie.
Strict, hein.
Mais non, parce qu'on est en train de perdre le contrôle du virus. Regardez cette étude de Santé publique France qui dit que les clusters qu'on identifie, c'est seulement 10% des contaminations qu'on arrive à tracer. Donc, on a perdu le contrôle du virus. Et donc, si on ne veut pas arriver à un confinement, ce n'est pas une menace. Il faut arrêter de se regrouper, arrêter les dîners, arrêter de sociabiliser. Le temps nécessaire, on a profité, on a eu la
chance.
Pour l'instant,
le couvre-feu, c'est 4 semaines. Enfin,
c'est un confinement partiel. On appelle couvre-feu, mais c'est juste qu'on n'a pas le courage de dire que c'est un confinement partiel et qui aboutira, si dans 2-3 semaines, ça ne s'améliore pas, vers un confinement généralisé. L'épidémie flambe dans l'Europe entière. L'Irlande confine, le Pays de Galles confine, les Australiens n'ont plus d'autorisation de, n'auront plus d'autorisation
Canada,
de voyager.
Ils sont toujours confinés à Montréal. Hein,
exactement.
Je crois.
À Montréal, ils ont pris des mesures fortes qui ont marché au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc ça va marcher si on, collectivement, on fait quelque chose. Donc arrêtez de vous réunir. C'est la seule chose nécessaire. C'est mieux que des applaudissements de 20 heures.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Estelle, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Sylvie Cafardi, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes gériatre et référent soins palliatifs au centre hospitalier de Montmorillon et l'auteur du livre, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, Expérience de mort imminente chez Humaine Science. Alors avant de commencer cet entretien, on va quand même rassurer nos auditeurs. On va parler de ces expériences qui nous fascinent tous, mais on ne va pas faire une émission mystique ni sur le surnaturel. Votre démarche, à vous, elle est de s'appuyer sur des témoignages vécus par des patients, des gens que vous avez rencontrés, et c'est une démarche scientifique et pragmatique.
Ah oui, moi, dès le départ, quand j'ai étudié ces expériences, il y a 20 ans déjà, pour ma thèse de doctorat en médecine en 99, j'ai considéré que les EMI, expériences de mort imminente, étaient un sujet d'étude comme un autre. Et donc, j'ai suivi la démarche que les scientifiques suivent habituellement pour étudier un phénomène quel qu'il soit.
Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va parler de la mort, mais ce n'est pas question de plomber le moral des Français. En ce moment, c'est déjà compliqué. Mais vous dites qu'en se questionnant sur notre façon de mourir, on apprend surtout à vivre et que ça pourrait même nous être utile dans notre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ah oui, non, on ne va pas plomber le moral. Au contraire, ces expériences de mort imminente sont très rassurantes, j'ai envie de dire. Et justement, pour apprendre à bien mourir, ben, il faut d'abord bien vivre. Il faut se délester de tous les poids qui nous encombrent. Et ça, c'est un travail de toute une vie.
Vous y arrivez, vous, aujourd'hui, après tant d'années de recherches et
J'y travaille. Ouais. Ça me montre ce sur quoi je dois travailler, justement. Je parle d'expérience.
Alors, en fait, vous dites que dans notre société, la mort, on en a peur. On en a même une peur viscérale, hein, ça c'est évident. Et qu'il suffit de regarder alors, nos EHPAD sans les cibler particulièrement, mais même juste notre façon de prendre en charge la fin de vie, de penser à la mort, pour voir qu'en fait, finalement, on a une démarche qui est très anxiogène en France et qu'il faudrait finalement avoir la démarche totalement inverse.
Alors, c'est surtout, je dirais, dans les services hospitaliers actifs, à but curatif, où la seule l'attitude acquise pour lutter, c'est la lutte contre la mort. L'accompagner, on ne sait pas faire dans ces services. On cherche à guérir, on ne cherche pas à accompagner vers la mort. Et donc, quand la maladie gagne et que la mort devient inévitable, eh bien là, on ne sait plus faire.
Vous avez été confrontée à ça très tôt dans votre carrière.
Ah oui, très tôt.
Je vous racontais dans votre livre une expérience. Vous êtes toute jeune étudiante en médecine dans un service où il y a un patient qui arrive, il est sur le point de mourir, hein, il est en cancer phase terminale. Tout le monde se casse. Hein.
Ah oui.
L'infirmière, le médecin, il dit « occupe-toi-en toi ». Enfin, on voit bien que même les médecins, les soignants, ils fuient ça un peu. Hein.
Ah oui, c'est une volée de moineaux.
Vous êtes retrouvée toute seule, jeune étudiante, avec ce cas à gérer.
C'est ça.
Mais est-ce qu'il y a des pays où on fait mieux parce qu'on a l'impression qu'on est très mauvais, vous le dites ? C'est vrai qu'on prend mal en charge les fins de vie et on va peut-être s'intéresser aux 10 dernières minutes où on va faire des petites choses, mais le système d'accompagnement met plus de temps et parfois on laisse un peu les gens tels quels. Vous dites qu'on veut absolument guérir les gens à tout prix, mais est-ce qu'il y a des pays où on est quand même plus exemplaire, on adopte la fin de vie d'une façon un peu différente ?
On ne peut pas dire. La mort est... De toute façon, l'être humain a toujours cherché une signification à la mort, à chercher depuis 100 000 ans. Ça fait 100 000 ans qu'on enterre nos morts rituellement. Et chaque peuple a essayé de lui donner une signification et un sens différent.
Il y a des pays où c'est joyeux, la mort. Hein.
Quand ça concerne une personne âgée, ces pays où arriver à vivre jusqu'à un âge avancé, c'est un honneur, où le terme vieux, c'est un terme honorifique. Quand ces personnes âgées décèdent, eh ben, les gens sont joyeux parce qu'il a eu la chance de vivre jusque-là. Nous, la mort, c'est toujours horrible. Et... On la cache, oui.
Alors, au début de votre livre, hein, il y a une anecdote assez frappante. Je trouve une infirmière qui vous dit « J'ai vu mon premier décès d'une personne âgée et ça m'a fait penser à un accouchement, du travail et de la peine finalement. Mais la différence, c'est qu'une femme enceinte, on la prépare à tout ça, à cette douleur et à ce travail. »
Alors oui, la naissance et la mort, c'est les deux extrémités de la vie. C'est les deux seuls événements dans notre vie dont on est sûr qu'on ne va pas y couper. Mais la naissance, tout le monde est d'accord pour dire qu'une naissance se passe mieux quand elle est préparée. Et la société a acté qu'on prépare les femmes enceintes physiquement, psychologiquement et socialement.
Il y a des cours de préparation à l'accouchement.
Ensuite, il y a plein d'autres événements qu'on prépare, on trouve normal. Si vous deviez vous présenter au bac sans l'avoir préparé, ça serait plutôt angoissant. Et puis le dernier événement, qui est aussi capital que le premier, rien.
On ne prépare pas à mourir.
Non, et on a oublié comment faire, en fait.
Ouais, sans anxiété. Jimmy ?
Et justement, ces expériences de mort imminente, elles pourraient nous aider à mieux comprendre et à mieux aborder la mort. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, l'EMI ? Parce qu'on comprend un peu vaguement le principe, mais bon, en quoi ça consiste ?
Alors, ce sont des expériences de modification de conscience. Alors, le terme « expérience de mort imminente » ou « NDE » en anglais, laisse croire qu'il faut être en état, en danger de mort imminent pour pouvoir vivre ça. En réalité, on s'est rendu compte que ça arrive dans tout un tas de circonstances différentes. Et ce sont des expériences où les gens se sentent en fait hyper conscients. Alors qu'ils paraissent inconscients aux yeux de leur entourage, ils sont hyper conscients. Ils se sentent sortir de leur corps, ils ont une lucidité exacerbée. Ils perçoivent beaucoup de choses très très loin. Ils entendent des voix, des choses, des événements qui se passent très loin. Ils rencontrent des êtres de lumière où ils reconnaissent des proches décédés. Ils passent leur vie en revue. Ils en font le bilan.
Ils voient des tunnels avec des lumières.
Ils traversent un tunnel qui peut être sombre, qui peut être lumineux. Et au bout de laquelle, ils aboutissent dans un océan de lumière qui, pour certains, ils perçoivent que c'est un être. Cette lumière est une conscience dans laquelle ils accèdent à l'amour total, à la connaissance totale. Et quand ils reviennent, ils sont totalement transformés. Et entre autres, ils n'ont plus peur de la mort du tout. Et c'est ça qui m'a intéressée dès le départ. Parce que ce qui gêne notre prise en charge de la fin de vie, c'est qu'on a peur de la mort.
On va y revenir, docteur Cafardi. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Sylvie Cafardi. Vous êtes gériatre et référente en soins palliatifs et vous êtes également l'auteur du livre « Expérience de mort imminente » publié chez Humaine Science. Alors on a tous entendu parler de ces gens qui ont frôlé la mort, vu la lumière blanche au bout du tunnel. Et justement, pour commencer, vous allez nous raconter une EMI. Alors EMI, on le dira beaucoup dans l'émission, c'est expérience de mort imminente, vous l'avez compris. L'EMI de Gégé, qui est la première à laquelle vous avez été confrontée, qui ouvre votre livre pour illustrer un peu plus votre propos. Racontez-nous l'histoire de Gégé.
Gégé, c'était un aide-soignant que j'ai rencontré aux urgences. Et alors que tout le monde était super stressé, lui, il restait toujours zen. Gêne, chaleureux. Et un jour, je lui ai demandé quel était son secret. Et il m'a raconté que c'était à la suite d'une expérience de mort imminente qu'il était devenu comme ça et qu'il était devenu soignant. Avant, il était peintre en bâtiment. Et quand il était jeune, 19 ans, ils ont dû un jour repeindre une cave de château d'eau. Et avant, ils ont dû assécher avec des chalumeaux. Mais ils ont oublié d'évacuer, d'aérer. Et quand il est revenu le lendemain et qu'il est descendu dans la cuve, en fait, il y avait plein de monoxyde de carbone au fond et il a fait une intox au monoxyde de carbone. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il est tombé dans les pommes. Et il disait bien, je me suis retrouvé dans un tunnel, dans un couloir. Les portes étaient fermées. Et puis, j'ai vu une petite lumière blanche au bout. Je me dis, chouette, je vois la sortie. Et puis, il a entendu une voix qui passait très loin dans le ciel qui disait, tu pars pour l'éternité. Il s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Et puis, il a dit, j'ai l'impression que c'était mon âme qui sortait, qui remontait le long de la colonne vertébrale, qui arrivait au sommet du crâne et qui sortait de mon corps comme une bulle. Il dit, moi, j'ai compris que c'était comme mon âme et j'ai compris que j'étais en train de mourir. Et il m'a dit, mais c'est fou, tu sais que tu vas mourir et tu te sens bien, tu te sens super bien. Et il est arrivé dans cette lumière et il a dit, c'était une lumière plus blanche, mille fois plus intincelante que le soleil, mais qui n'éblouissait pas, mille fois plus blanche que la neige. Et cette lumière, j'ai compris. Et pourtant, j'avais que 19 ans, j'étais croyant, mais enfin, c'était du léger à l'époque, pas plus que ça. Et j'ai compris que j'étais face à un être suprême. Pour moi, c'était ça, à ce moment-là. Et puis, pof, tout à coup, il s'est retrouvé, non plus dans la lumière, mais il s'est trouvé au-dessus du château d'eau, très haut au-dessus, et il a vu qu'on avait sorti son corps de la cuve, qu'il y avait des sauveteurs qui étaient arrivés, qu'il avait sorti de là, il y avait une femme qui était en train de le masser. Et en même temps qu'il voyait son corps et les sauveteurs en haut de la cuve, il voyait au pied du château d'eau un cocker qui était en train de lever la patte sur sa bouteille de bière.
C'est quand même dingue cette histoire.
Et au moment où la femme l'a massé, pof, il s'est retrouvé dans son corps. Il a dit, mais ça va pas ma petite dame là, qu'est-ce que vous faisiez ? Elle dit, mais vous aviez plus de poux. Il dit, moi, mort ? Non mais ça va pas, je me sens super bien.
Ouais, c'est incroyable cette histoire, Jimmy. Vous avez les yeux écarquillés.
Je suis scotché parce que ouais. Non, mais ça reste perturbant. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'à cause de l'intoxication au monoxyde de carbone, il y avait une hypoxie, et donc en fait, c'est peut-être une forme d'hallucination ou quelque chose qui pourrait expliquer. Je cherche un mécanisme rationnel, mais il y a l'exemple du cocker. En fait, comment il a pu voir ce chien
en bas du château d'eau qu'il était en haut.
Alors qu'il était en haut, alors qu'en plus, lui, il était en arrêt cardio-respiratoire.
Les yeux fermés.
Ouais. Les yeux fermés. Donc, d'où ça sort, ce chien-là qu'il aurait... Non, mais je suis scotché. Hein,
Bah, oui, il a manqué d'oxygène, certes. Mais on ne peut pas parler d'hallucination, là. Une hallucination, c'est quand on voit ou on entend des choses qui n'existent pas. Et là, ce qu'il a vu, ça existe. C'est des événements réels. Donc l'explication, pour l'instant, ben, il n'y en a pas.
Justement, ce qui est très étonnant dans les EMI, parce qu'on le dit, donc, on connaît que ces histoires, lui, il a clairement frôlé la mort. Il était en arrêt cardio-respiratoire, GG. Mais vous les avez étudiés, les EMI, plus de je ne sais pas combien, des centaines peut-être de témoignages, vous nous direz. Mais plus de la moitié des cas, ce n'est même pas des gens qui sont en train de mourir. Hein.
Non. Heureusement d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de faire un arrêt cardio-respiratoire pour vivre une expérience de mort imminente, même si le terme est trompeur. Parce que, effectivement, les premiers cas ont été répertoriés chez des personnes qui étaient en arrêt cardio-respiratoire.
Dans quelle situation sinon ?
Ça peut arriver dans des cas où on a un choc physique, un choc émotionnel important, positif ou négatif d'ailleurs, ou bien au contraire une relaxation très importante.
Comme une anesthésie aussi. Hein.
Une anesthésie, une méditation, une sieste, ça peut arriver dans tous ces cas-là.
Et l'histoire de la lumière blanche au bout du tunnel, en fait, c'est quelque chose qui est fréquent, en fait, qui enfin, je ne vais pas dire qu'il existe, parce que j'ai du mal à pas y croire, mais je suis perturbé. Mais donc, c'est fréquent, on vous le rapporte souvent dans ces expériences de mort imminente, la lumière au bout du couloir, au bout du tunnel.
Alors, c'est vrai que les expériences de mort imminente ont plusieurs étapes, et tout le monde ne vit pas les mêmes étapes. Mais je dirais que la caractéristique principale, c'est qu'en revenant de ces expériences, la peur de la mort a disparu, ce qui est quand même une peur génétiquement greffée dans nos gènes par l'évolution. Hein. C'est nécessaire d'avoir peur de la mort pour survivre. Et ça c'est une caractéristique. Et cette lumière blanche qui laisse toujours une marque, ils s'en souviennent toute leur vie.
Vous dites 70% des cas dans votre vie.
Voilà, en gros, c'est une étude du Coma Science Group du CHU de Liège qui a
Et des rencontres avec des personnes décédées aussi, ça revient souvent.
Alors, des êtres de lumière, c'est la même lumière. La grande lumière blanche, les êtres de lumière et les personnes eux-mêmes, elles se voient composées de la même lumière.
Docteur Cafardi, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invitée, docteur Sylvie Cafardi. Je rappelle que vous êtes gériatre et référente en soins palliatifs et que vous êtes également l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Expérience de mort imminente, publié chez Humaine Science. Alors, on a bien décrit jusque-là ce que pouvaient être ces EMI, expérience de mort imminente. Il y en a plusieurs types. On n'a pas le temps de toutes les voir aujourd'hui. Il faudra qu'on refasse une autre émission. Mais maintenant, on a tous envie de savoir, évidemment, parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas une émission mystique, comment la science, la médecine explique ces phénomènes. Alors, les premières hypothèses pour expliquer les EMI, elles sont psychologiques. On se dit, bon, bah, ces gens-là, ils déraillent un peu, quoi. Hein, mais je crois que ça ne vous a pas convaincu dans vos recherches.
Non, on dit que les explications psychologiques disent que c'est le cerveau qui invente ça pour nous préserver de la terreur que doit forcément nous susciter l'approche de la mort. Ça ne marche pas quand on sait que les EMI se déclenchent alors qu'on n'est pas en danger de mort.
Oui, lors d'une sieste ou d'une méditation, tout va bien, donc il n'y a pas de raison que ce soit
une raison psychologique. Ça ne marche pas.
Est-ce qu'on pourrait penser à une explication neurologique, une crise d'épilepsie partielle, quelque chose qui fait qu'on a comme, c'est pas une hallucination, mais quelque chose d'un peu troublant qu'on ne saurait pas expliquer ?
Alors, les crises d'épilepsie donnent effectivement plein de sensations étranges, mais ça ne donne jamais, ça donne plutôt un malaise, ça ne donne pas une sensation de bien-être intense, ça ne permet pas de faire un jugement de valeur sur l'ensemble de sa vie, et surtout, ça n'entraîne pas des modifications de la personnalité aussi profondes et définitives que la perte de la peur de la mort, ou la perte de l'attachement au bien matériel, ou l'empathie beaucoup plus importante. Qui caractérise les expérienceurs, ceux qui ont vécu les expériences de mort imminente.
On a dit psychologique, mais on n'a pas parlé du côté psychiatrique. Il y a des gens qui ont des maladies psychiatriques très très fortes, hein, j'en sais rien, des schizophrènes, des gens où on sait qu'il y a des délires, des hallucinations, ça ne pourrait pas être ça aussi ? Ils ne sont pas tous fous, remarquez, mais d'ailleurs, ce n'est pas être fou, mais c'est pas possible.
C'est d'en souffrir. On a vu que les hallucinations, c'est de voir ou entendre des choses qui n'existent pas, et on a vu que les expérienceurs, au contraire, décrivent des événements qui ont réellement eu lieu, parfois même hors de leur champ visuel, c'est ça qui est très troublant, et les exemples sont très nombreux à ce sujet. Par contre, les troubles psychiatriques, eux, ils entraînent des troubles de la communication avec les autres. Les personnes qui souffrent de ces troubles comprennent qu'on ne fonctionne pas pareil et ça gêne la communication entre les deux et ils se méfient de leur entourage. Les expérienceurs, bien au contraire, sont beaucoup plus empathiques, compréhensifs, tolérants. Les effets sont totalement différents.
Quand je disais les fous, je disais bien les gens qui ont vécu ces expériences qu'on peut prendre pour des fous et pas les malades, évidemment.
Oui, c'est exactement, parce que c'est vrai que c'est très perturbant. Quand on a du mal à le comprendre, on peut se penser quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que ça pourrait pas être un rêve en pleine conscience, on se souvient de ce qui s'est passé, non ? Ça ne marche pas non plus, le rêve ?
Ben, le rêve ne vous guérit pas de la peur de la mort, hein, autant que je sache.
Est-ce que ça, c'est une constante que vous avez retrouvée, des gens qui ont un changement radical dans leur comportement, leur façon de voir la vie ?
Oui, complètement. Et c'est tellement bouleversant que souvent, il leur faut des années, en moyenne 7 ans, d'après un médecin qui les a étudiés, des années pour arriver à digérer cette expérience et à réussir à adapter leur vie à leur nouveau système de valeurs. Beaucoup sont obligés de changer de métier et parfois même changer de conjoint.
Oui, comme celui qui était peintre et qui est devenu soignant. Justement.
Soignant, beaucoup sont devenus soignants.
Dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'explication la plus plausible à ce stade des connaissances, pour expliquer la survenue donc, de ces EMI, vous dites dans votre livre qu'il faut regarder du côté de la conscience et même de la physique quantique. Alors, essayez de vous expliquer ça le plus simplement possible. Parce que dans votre livre, c'est pas si clair que ça, c'est compliqué en tout cas, allez-y.
La physique quantique est compliquée.
C'est ça,
façon.
C'est la physique quantique qui est compliquée.
Il y a un prix Nobel de physique qui a dit celui qui dit qu'il comprend la physique quantique ne l'a pas comprise en fait.
Bon, donc on la comprendra pas aujourd'hui, on mais essayez de nous expliquer la cause.
En fait, le problème des EMI, c'est le problème de la nature de la conscience. L'idée générale aujourd'hui, c'est que la conscience est produite par l'activité électrobiochimique du cerveau. Mais si on se base sur cette hypothèse de travail, ça veut dire que la conscience est enfermée dans le cerveau. Et donc, ça ne peut pas expliquer les visions des expérienceurs qui peuvent vous décrire ce qui se passe à 500 km dans
le
la pièce d'à côté.
Le coquin qui fait pipi sur les bières en bas,
exactement.
C'est pas possible.
Donc, ça, il faut trouver autre chose. Donc, quand j'ai étudié ma thèse, j'ai proposé une autre hypothèse qui est celle d'une conscience qui pourrait être fonctionner indépendamment du cerveau tout en restant en interaction étroite avec lui. Maintenant, quelle pourrait être la nature de cette conscience ? Alors, ce qui était troublant, c'est que quand on est tu dis, la nature de la conscience, c'est clair, c'est un des grands mystères actuels. On ne sait pas de quoi elle est faite. On ne sait pas. Donc, on peut y aller avec des hypothèses. Si on écoute les expérienceurs, il y a quand même des similitudes très troublantes entre ce que décrivent les expérienceurs et ce que décrivent les physiciens du comportement des particules quantiques. Particules quantiques qui sont les briques infiniment petites qui composent tout notre monde, qui composent les atomes et donc l'essentiel du monde. Et donc, si toute notre réalité, si pratiquement tout dans le monde est composé de particules quantiques, bah pourquoi pas notre conscience ?
Jimmy, vous avez compris ?
Oui, mais je trouve ça passionnant. Mais du coup, en quoi ces EMI pourraient nous aider à préparer la mort, en fait, quand on doit justement aider des gens à mourir, ou en tout cas les préparer à se mourir ? Comment on s'en sert ?
Comment on s'en sert ? Déjà, la perte de la peur de la mort, la sérénité des expérienceurs face à la mort est très contagieuse. Quand on les entend nous raconter leur histoire, on se
vous
sent...
Vous l'avez expérimenté, vous, avec une infirmière qui en avait vécu une et que vous avez envoyé comme ça auprès de patients qui étaient en fin de vie.
Oui, c'est un patient qui m'avait demandé l'euthanasie et ensuite la sédation terminale, alors qu'il ne souffrait pas, qu'il n'étouffait pas, simplement parce qu'il avait peur de se sentir mourir. Parce que pour lui, c'était un inconnu absolument terrifiant. Il paniquait à cette idée. Et donc, je savais que j'avais une infirmière qui avait vécu une amie. J'ai proposé l'un à l'autre, est-ce que vous voulez le rencontrer ? L'un et l'autre ont dit oui. Donc, pendant qu'elle allait changer sa pompe à morphine, elle lui a raconté son histoire. Et après, le monsieur, certes, il devait encore avoir besoin d'un peu d'anxiolytique, mais je n'ai pas eu besoin de sédation terminale. Il a pu rester lucide, donc il a pu revoir sa famille, leur dire au revoir, leur dire pardon. Et il s'éteint dans son sommeil juste
paisiblement.
Après.
Donc paisiblement. On pourrait utiliser, il y en a qui utilisent ça, je crois, à la Timone, vous dites à Marseille, d'utiliser des vidéos, des livres autour de ces expériences pour apaiser ceux qui doivent se préparer à partir.
Le psychologue Éric Dudoit, qui travaille au CHU, la Timone, service de soins palliatifs, lorsque ses patients lui disent qu'ils ont peur, pareil, de se sentir mourir de la mort, il leur propose de lire ou de visionner ces témoignages. Et il a pu constater, avec l'aide de tests, que le score d'anxiété avant et après le visionnage de ces témoignages était nettement diminué.
Jimmy, une dernière petite question.
Du coup, c'est passionnant, mais pourquoi on ne s'en sert pas plus alors ? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que là, j'avais jamais entendu parler de ça, de ma vie de docteur, de jeune docteur malgré tout. On devrait un peu le généraliser, parce que si on diminue l'angoisse, même si c'est faux, disons que c'est n'importe quoi, si l'angoisse est diminuée vis-à-vis de la mort, bah ça marche.
Oui, et puis un professeur préférait appeler ça le vécu subjectif de l'agonie. Bon, qu'il y ait quelque chose après, c'est autre chose, mais au moins on sait qu'au moment où on entre dans la mort, eh ben, on se sent bien. Et ça, c'est très apaisant.
Merci beaucoup, docteur Cafardi, d'être venu sur notre plateau. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Expérience de mort imminente, chez Humaine Science. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureux d'être avec vous cet après-midi et nous passons à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur les verrues plantaires. Savez-vous précisément comment ça s'attrape, par quoi elles sont causées et surtout comment ça se traite ? Eh bien, Benjamin Lévesque est allé tester vos connaissances sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Ah bah une verrue plantaire, c'est juste qu'elle est au niveau du pied. C'est une verrue, on peut l'avoir partout.
On va dire qu'une fois qu'on l'a, on a du mal à s'en débarrasser.
C'est une verrue dans le pied ?
C'est un truc rond, un petit peu en relief, comme un bouton, un peu transparent.
Comme si c'était un petit œil qu'on a en dessous le pied.
Visuellement, c'est pas très propre, c'est un peu rouge, un peu épais.
Une verrue, c'est pas très beau, ouais.
Je sais pas, je dirais peut-être, ouais, manque d'hygiène ou, je sais pas, ouais, une MST. Ou...
Souvent, on dit qu'on peut l'attraper à la piscine.
Généralement, on a l'idée en tête que c'est pas un signe de propreté, on peut attraper ça assez facilement.
Il me semble que j'ai été chez la dermato pour pouvoir me la faire enlever à l'acide, à l'azote, en fait, pour la brûler complètement.
Alors, on la brûle pas au briquet, hein, je pense qu'on l'a peut-être fait à un moment donné, mais non, en fait, on le brûle avec de l'azote liquide.
Jimmy, les verrues plantaires, vous connaissez bien le sujet pour des raisons médicales,
mais oui,
évidemment.
Bah, personnel, mais attention, Jimmy. Ne commencez pas comme ça, Mélanie, ça va se payer, je vous l'assure. Je le garde en tête, vous verrez.
Alors, verrues plantaires, moi j'en ai jamais eu, je ne sais pas du coup de quoi il s'agit. Mon mari dirait que je mens complètement. J'en ai eu une très longtemps, qui a duré longtemps, j'avoue, après de la piscine, enfin bref, à la sortie de l'adolescence.
Ah, attention, les verrues génitales n'ont rien à voir avec les verrues plantaires.
Sous le pied. Jimmy, une verrue, c'est quoi concrètement?
Alors, ça se présente sous forme d'excroissance dure de la peau qui, en général, ne dépasse pas la taille d'une tête d'épingle et parfois c'est un peu plus gros, de la taille d'un poids. Et c'est lié à une famille de virus qu'on appelle les papillomavirus, rien à voir avec les papillons que vous pouvez avoir dans le ventre. C'est les familles de virus d'HPV. C'est plutôt très fréquent, c'est 7 à 10% de la population.
Quand même.
Plus fréquent chez les enfants entre 10 et 14 ans. On connaît tous quelqu'un qui a eu une verrue. Suivez mon regard, même si les auditeurs ne voient pas.
Sous le pied, ça peut être gênant, mais c'est jamais grave, on est d'accord. Hein.
Oui, c'est toujours bénin. C'est vrai que c'est moche, mais attention, c'est contagieux. On distingue plusieurs types de verrues. La plus courante, c'est la verrue vulgaire, avec une excroissance qui est gris-jaunâtre, avec une surface irrégulière. Mais vous pouvez aussi avoir sous le pied, au niveau de la plante. Là, elle va pénétrer de façon un peu plus importante au niveau de la peau, et donc parfois être responsable de douleurs.
Comment ? Est-ce qu'il faut toujours consulter un dermato d'ailleurs ? On ne peut pas se débrouiller tout seul. Si c'est une petite verrue, est-ce que ça peut passer tout seul ?
Exactement. L'immense majorité des verrues se traitent sans aucun traitement. Elles partent spontanément.
Et ça peut être long. Hein.
Et ça peut être long. Ça peut mettre 1 à 2 ans. Et on va les traiter dans certaines situations. 1. S'il y a un préjudice esthétique, vous en avez sur le visage, évidemment qu'il faut aller vous faire traiter. 2. Si c'est douloureux, notamment celles qui sont sous la plante des pieds,
marche,
peut vous faire mal. Ouais. Et puis 3. Si jamais elles sont contagieuses, vous pouvez en disséminer partout. Donc si jamais vous en avez sur les mains, eh bien là, on peut décider de les traiter.
Alors elles ne sont plus plantaires si elles sont sur les mains, mais Jimmy. Enfin, si, remarquez, il y a la plante des mains.
Hein, exactement. Mains. Non, mais c'est la paume des mains.
La plante des mains, n'importe quoi. Jimmy, on le soigne avec quoi? On peut aller chez le dermato, on fait brûler, c'est ça? Ou alors il y a les trucs qu'on achète en pharmacie?
Alors, tous les produits ne se valent pas en pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien. Évidemment que l'azote liquide utilisé par le dermatologue est plus efficace. Ou sinon, buvez un verre d'eau tous les matins, vous verrez, ça marche. Bah oui, je vous ai dit que ça partait tout seul dans 1 ou 2 ans. Donc ne faites rien, ça marche tout aussi bien.
Je comprenais pas ce que
c'est
vous
des blagues
faisiez.
De docteur.
Oui, bon, bah, c'était drôle. Merci beaucoup, Jimmy.
Je suis très fier de moi.
Pour toutes ces précisions et ces blagues, c'est super.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio. Catherine, aujourd'hui, on aimerait bien savoir s'il faut avouer, grand thème, grand sujet de préoccupation, s'il faut avouer une infidélité occasionnelle. Alors Catherine, on n'a pas tous la même notion d'infidélité. Hein.
Est-ce
que
du
faire l'amour, déjà, ouais, voilà, occasionnel, est-ce que c'est, on parle de faire l'amour ou est-ce que même déjà une petite relation, je vois, par SMS ou un truc comme ça, c'est plus qu'occasionnel là.
En fait, je crois que c'est là toute la difficulté. Nous n'avons effectivement pas tous les mêmes rapports à la relation, à la fidélité et donc à l'infidélité. Donc, qui suis-je moi pour dire qu'il faudrait ou pas avouer ? D'ailleurs, si dès lors qu'on dit avouer, ça veut dire que on sait très bien que c'est une faute. Dans la mesure où c'est une faute, eh bien, c'est un rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on vient jouer là-dedans ? À quoi sert la relation ? Quel est notre investissement dans cette relation ? Et quelles sont les marges que l'on s'octroie ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est contre l'autre ? Est-ce que c'est pour une liberté ?
En couple, mieux vaut avoir la même vision, non ? De l'infidélité et de la fidélité, quand même.
Absolument. Sauf que je crains qu'on ait du mal à se le dire, parce que c'était assez facile d'entendre ce que l'autre va dire. Moi, ça ne l'est pas. Plus compliqué de dire, tu sais, jusque-là, moi, pour moi, ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment une histoire très, très difficile. Et de toute façon, la notion de occasionnel, là encore,
il y a Jimmy hausse les sourcils.
Oui, il n'aime pas
là,
ce thème.
Il a sa tête renfrognée aujourd'hui.
Oui, il n'aime pas ce thème et il a raison. Parce que c'est un thème difficile, parce qu'il n'est pas question d'être mère la morale et de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien.
Voilà.
Je laisse ça à Jimmy, en effet. Mais donc, on peut entendre que chacun a une vision de sa liberté éminemment légitime et que le cadre de la relation n'a pas à enfreindre cette liberté. Pour autant, c'est quand même se dire à quoi s'est-on engagé avec l'autre et que risque-t-on, à quoi joue-t-on. Et la notion d'occasionnel, pour nombre d'hommes, c'est notamment c'est de se dire que dans la mesure où c'est une fois, c'est occasionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le reprendront pas mille fois.
Ouais, Jimmy, alors, ouais, bon, non, mais perd la morale.
Non,
on
là,
vous écoute.
Non, j'essaie d'être ouvert. Mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, en 2020, d'être fidèle que dans les années 80 ou 90? Puisque j'ai l'impression, avec l'avènement des réseaux sociaux, des sites de rencontres...
C'est comme si les tentations étaient plus nombreuses, non?
Peut-être. Plus nombreuses, plus accessibles et assez éphémères. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être fidèle?
Alors d'abord, les années 80-90, on sortait des années 70 où c'était la grande ouverture à tout et n'importe quoi. Hein. Donc évidemment, derrière des grandes ouvertures, il y a souvent tout d'un coup une sorte de morale qui s'est resolidifiée pour se réouvrir. En fait, on voit dans la société des grands mouvements de liberté accordés au libéralisme et tout d'un coup, des moments, au contraire, où on remet les choses à leur place, où on remet une sorte d'idée de normes et de morale. Donc, est-ce que c'est plus difficile? Je pense qu'il y a toujours eu autant d'hommes, de femmes, mais il y a eu un moins grand brassage, une moins grande accessibilité des uns et des autres, et puis aussi un verbe qui était moins sexué en permanence. On parle de sexe tout le temps. On parle de sexe au boulot, on parle de sexe à table, on parle de sexe avec les enfants qui jouent dans les pattes. Donc, c'est vraiment, on ne se rend même pas compte qu'on en parle tout le temps. Donc, effectivement, ça sexualise en permanence les choses et les rapports avec autrui.
Alors, sur l'occasionnel, c'est le thème du jour. Est-ce qu'il faut avouer une infidélité occasionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui arriverait qu'une fois et pas une relation extra-conjugale très durable? Parfois, ça peut arriver, c'est un accident, on va dire. On s'en veut, est-ce qu'il faut aller déverser? Voilà, parce qu'on s'en veut, on se sent coupable, on le dit à l'autre. Est-ce que c'est utile ou pas?
Alors, moi, je trouve que. Alors, je mets de côté la notion de morale, mais je trouve que dire « je vais l'avouer », c'est un peu comme un enfant qui va voir maman ou papa pour se faire pardonner. C'est, alors évidemment, la personne qui a été trompée pourra dire qu'il y a quelque chose de, comme une sorte de prise de conscience plus grande si quelqu'un l'avoue, si la personne l'avoue ou ne l'avoue pas. Sauf que jusque-là, elle était tranquille, elle n'avait pas à gérer ce qui fait la culpabilité de l'autre. Tout d'un coup, elle est ou il est aux prises avec ce qui a été, comme vous dites, un accident, comme si on faisait l'amour par accident. On ne fait pas l'amour par accident, on fait l'amour pris par des pulsions et on a toujours notre cerveau normalement qui est aux commandes et qui peut décider de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Donc, je crois que c'est d'abord un travail à faire avec soi avant de mêler l'autre et de désenchanter la relation. Si on a le sentiment réellement qu'on a fait une bêtise, que ce n'était pas souhaitable, il nous appartient de se remettre sur le droit chemin plutôt que d'essayer de tout de suite se racheter par le biais de l'autre.
Une dernière petite question, une dernière petite réponse.
Faute avouée, à moitié pardonnée, autant ne pas fauter pour ne pas avoir à pardonner.
La droiture est là.
Ah oui.
Non, mais c'est sûr. De toute façon, je pense que une autre chose que je voudrais dire, c'est que la tromperie, ce n'est pas fait pour tromper l'autre. C'est qui se trompe
c'est
en premier.
C'est pas bon quand même.
C'est pas contre l'autre, c'est pour
vous
soi.
Vous avez vu cette conclusion, Jimmy?
Voilà, c'est
plus fort que moi.
Non, mais c'est surtout que c'est pas contre l'autre. On va avec un autre être parce qu'on veut du mal à celui avec qui on est. Sauf que ce chemin faisant, on embrouille un peu les pistes de la relation. Alors, pas de morale à avoir là-dessus, peut-être, mais sachant où on va, ce que l'on veut, et pour pouvoir se regarder dans sa glace, tout simplement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Notre grand dossier demain sera consacré au surpoids chez les enfants. Un sujet loin d'être anecdotique puisque 20% des enfants seraient concernés en France. Mais tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Nous sommes avec des géants là aujourd'hui. Mais on va se glisser dans leur ombre dans Historiquement Vôtre.
Exactement Stéphane, chaque après-midi trois personnages. Leur point commun aujourd'hui, avoir vécu dans l'ombre de personnalités imposante. On va parler du père Joseph.
Oui. La véritable éminence grise, c'est le cas de le dire, de Richelieu.
On va parler d'Auguste Maquet,
qui était dans l'ombre d'Alexandre Dumas. Et vous avez choisi l'ombre de Céline Dion.
C'était oui, alors l'ombre est très fine et la personne dans l'ombre ne l'était pas. Mais elle avait une grande influence, c'était René Angélil.
Ah, j'ai hâte.
Très bien, et nous aussi on a hâte. Merci messieurs, je vous souhaite une très bonne émission. Je suis certaine qu'elle le sera. On va vous écouter et vous aussi, restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.